France Info. L'historien de France Info est avec nous, Thomas Snegaroff, spécialiste des États-Unis. Bonjour Thomas.
Bonjour Simon.
On va revenir avec vous sur l'œuvre et sur l'héritage de Martin Luther King. Et c'est en 1955 que tout commence.
Oui, tout commence pour lui. Il est très jeune pasteur depuis un an, il a 26 ans. Et Martin Luther King s'engage à Montgomery, dans l'Alabama. L'histoire est connue. Rosa Parks a décidé de ne pas laisser la place pour une fois dans le bus.
We, the Negro citizens of Montgomery,
nous, les citoyens noirs de Montgomery, sommes engagés dans une lutte non violente contre les mesures injustes et indignes qui nous sont imposées dans les bus de la ville. Nous remonterons dans les bus, ayons assez d'amour pour transformer un ennemi en ami. Nous serons capables de sortir de la nuit où sévit la cruauté de l'homme envers l'homme pour aller vers une aube resplendissante de liberté et de justice.
Il y a déjà là, Thomas, la voix, les intonations, le talent tout simplement de Martin Luther King.
Vous avez raison, d'abord talent, oratoire exceptionnel, extraordinaire même. Et une méthode, on l'a entendu, hein, faire de ses ennemis des amis, la non-violence qu'il a apprise bien sûr dans l'enseignement du Christ, mais aussi de l'Indien Gandhi, la non-violence. Il la théorise ici, Martin Luther King, on est à la fin des années 50, c'est ce qu'il appelle la résistance passive.
Une des fiertés de la démocratie américaine est que nous avons le droit de lutter pour nos droits. C'est une lutte non violente. Nous comptons sur des forces spirituelles et utilisons la résistance passive. Même si nous subissons la violence, nous ne la rendrons pas.
Et c'est ce qui le distingue de militants noirs plus violents. On pense évidemment à la Nation of Islam, un temps incarné par Malcolm X. Malcolm X, il s'en éloignera, hein, cependant. Oui. Alors non, pour King, la violence, c'est d'abord un piège dans lequel les Blancs veulent les faire tomber, eux, les militants des droits civiques. Et enfin, tacticien, il considère que non seulement il ne faut pas répondre à la violence par la violence, mais il faut que leur réponse et que cette violence soit visible, notamment à la télévision, qu'on voit le sang des Noirs couler pour choquer les Blancs du Nord et prouver que dans cette histoire, les victimes se sont bel et bien les Noirs.
Et après quasiment 10 ans de lutte, Martin Luther King et les militants des droits civiques obtiennent de grands succès. On est en 64 et en 65.
Oui, la non-violence et la grande marche pour les droits civiques d'août 63 vont produire leurs effets. On est là en effet en 1964.
Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law. And thus reaffirms the conception of equality for all men that began with Lincoln and the Civil War 100 years ago. The Civil Rights Act of 1964.
Voilà, donc c'est la grande loi de 1964 sur les droits civiques qui interdit toute discrimination. Les panneaux blancs seulement doivent disparaître des États-Unis. D'ailleurs, Martin Luther King recevra le prix Nobel de la paix cette année-là pour sa lutte victorieuse contre les discriminations. Un an plus tard, en 1965, est voté le Voting Rights Act, fin de l'entrave au vote des Noirs. Vous savez, on demandait aux Noirs qui avaient le droit de voter, mais est-ce que votre grand-père votait ? Non. Oui. Ah, vous n'avez pas voté. Est-ce que vous savez lire ? Non. Ah, vous ne pouvez pas voter. Il y avait plein d'entraves dans les États du Sud et c'est une victoire politique à ce moment-là. En 1967, il se lance dans un nouveau combat, son dernier combat, la lutte contre la pauvreté. Noirs et blancs sont mêlés. Là, on commence à l'accuser d'être marxiste. Marxiste, c'est une insulte qui vaut pour beaucoup une balle entre les deux yeux. C'est ce qui va se passer quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, à Memphis, le 4 avril 1968.
Il y a 50 ans, donc jour pour jour, et on posait la question tout à l'heure, 50 ans après son assassinat, que reste-t-il de son combat ? Force est de constater malheureusement aujourd'hui que ce combat est inachevé, Thomas, et pas uniquement en raison de la mort de Martin Luther King.
Oui, bien sûr, d'un côté légal, les choses ont avancé, ces lois-là, on n'est pas revenu dessus, quoique, mais surtout, les inégalités sociales sont encore extraordinairement importantes. Vous savez qu'en termes d'espérance de vie, les Noirs ont 3,4 ans de moins d'espérance de vie que les Blancs. Les femmes noires avec un cancer du sein meurent bien plus que les femmes blanches avec un cancer du sein. Et puis, si on s'en tient à l'école et à la ségrégation scolaire, l'un des grands combats de Martin Luther King, eh bien, depuis 1980, il y a un retour de la ségrégation raciale. On parle de re-ségrégation, y compris dans les États du Sud, y compris dans ceux dans lesquels Martin Luther King a autant et tant lutté. Aujourd'hui, il reste un nom, une icône, un jour férié aux États-Unis, oui. Le troisième lundi du mois de janvier, et puis beaucoup de combats à mener d'une certaine manière. Les jeunes gens qui ont milité il y a quelques jours à Washington contre le port d'armes et dans tous les États-Unis sont des héritiers de Martin Luther King. Ils ont compris qu'il fallait se mobiliser, qu'il fallait marcher et qu'il fallait surtout rejeter toute violence.
Thomas Snegaroff, historien spécialiste des États-Unis, merci beaucoup.